France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. J'aimerais refaire une série de quatre chefs que j'ai décidé d'appeler oubliés, même si cela me vaut à chaque fois quelques messages qui me disent « oubliés, ça dépend pour qui, moi je m'en souviens très bien ». Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs, c'est juste une manière de dire qu'ils n'ont pas accédé à la notoriété des monstres sacrés de la baguette, mais ça ne fait pas d'eux pour autant des sans-grades. Alors commençons cette semaine par Georges Sébastian, un Hongrois pour qui tout a commencé quand il était répétiteur pour Bruno Walter à Munich au début des années 20. Walter qui était non seulement son maître et son mentor, mais ils aimaient la même femme, la merveilleuse soprano Delia Reinhardt, sauf que Sébastien, lui, l'a épousée. Et il l'accompagne ici, dans les maîtres chanteurs de Wagner. On est en 1928. Le monologue d'Eva dans les maîtres chanteurs de Wagner par la lumineuse Delia Reinhardt, dirigée par son mari de l'époque, Georges Sébastien. Je l'appelle de son nom français car il a été très présent dans la vie musicale française, mais c'est sous le nom de Georg Sebestyén qu'il naît à Budapest en 1903. Dès l'âge de 5 ans, il a le choc de l'opéra avec Fidelio, entendu sur les genoux de sa maman. Il est imprégné par la vie musicale de Budapest et aussi par un très fort tempérament Europe centrale, très romantique. Il a pour professeur à Budapest Bartok et Kodály, s'il vous plaît, mais son dieu, c'est Bruno Walter. Et avec le culot de ses 18 ans, il va le voir tout simplement à Munich. Walter le prend comme chef de chant, puis assistant. On est en 1922. 5 ans plus tard, en 27, son maître, Walter, l'appelle comme chef permanent à l'opéra municipal de Berlin, où Walter est directeur musical. On trouve ensuite sa trace à Moscou, directeur musical de l'orchestre symphonique de la radio du RSS au début des années 30, nomination très inattendue pour lui, dit-il, car il n'est ni russe ni communiste et à l'époque, le pays est assez fermé. Mais ça lui permet de diriger l'intégrale Tchaïkovski en 1933 pour le 40e anniversaire de la mort du compositeur. Et puis, quand l'atmosphère devient irrespirable en Europe à cause de la montée des totalitarismes, il se rend comme tant d'autres aux États-Unis, pour revenir à la fin de la guerre. Là, il est dans la quarantaine, il revient à l'Opéra de Berlin, devient un wagnérien très aimé des chanteurs, et notamment de l'incroyable Kirsten Flagstatt, ce qui le marque à vie. Avec son sens de la formule, il dira que diriger une autre chanteuse après Flagstatt, c'est comme aller manger debout au buffet de la gare de Varsovie après avoir fait un repas gastronomique chez Maxim's.
Thank you.
J'évoquais Wagner, mais là, c'est dans la musique de l'autre grand Richard, Strauss, que je vous faisais entendre l'immense Kirstenflagstatt, dirigée par Georges Sébastian. C'était Elektra, la scène de la reconnaissance d'Oreste. Alors si la postérité a moins retenu Sébastian que d'autres, c'est sans doute parce qu'il n'a pas beaucoup enregistré déjà, aussi peut-être parce qu'il ne s'est jamais lié durablement à un orchestre qui l'aurait marqué de son empreinte. C'était plutôt un chef itinérant. Le seul orchestre dont il ait été officiellement directeur musical, c'était à Scranton, Pennsylvanie. Donc vous voyez, même pas un orchestre A ou B, plutôt C ou D. Mais à partir de 1947, il est extrêmement présent en France. Il rejoint l'équipe des chefs permanents de ce qu'on appelait la RTLN, Réunion des théâtres lyriques nationaux. On le voit beaucoup au Palais Garnier et à la Salle Favart. En fait, il est typique du chef d'opéra à l'ancienne, qui peut tout faire. Gounod et Massenet, Verdi et Puccini, Wagner et Strauss, avec un métier à toute épreuve, très important à une époque où on répète peu. Il a enregistré Lacmé, Thaïs, Werther. Il était dans la fosse pour les débuts parisiens des deux grandes divas de l'époque, Renata Tebaldi et surtout Maria Callas. 19 décembre 1958, au Palais Garnier, le Tout Paris et l'Eurovision sont là. La Callas fait ses débuts à l'Opéra de Paris. Alors non pas dans un opéra, mais au cours d'une soirée conçue pour elle, des airs en première partie, l'acte 2 de Tosca en deuxième partie, eh bien, c'est Georges Sébastian qui était dans la fosse. J'ai dit des airs, mais aussi des ouvertures, pour permettre à la diva de se reposer. Et là, c'est l'orchestre de l'opéra qui a la main. Sébastian leur a fait manger du lion. Ce n'est pas forcément très ensemble, mais alors quelle fougue dans l'ouverture de La Force du Destin. C'est tout moi. Je vous annonce une soirée Callas et je vous passe de l'orchestre. 19 décembre 58, la soirée des débuts parisiens de la Callas. Georges Sébastian dirigeait l'ouverture de La Force du Destin avec l'orchestre de l'Opéra. Sébastian était un homme petit, silhouette compacte, des sourcils broussailleux. Il dirigeait les bras très haut, peut-être pour compenser sa petite taille. Ce n'était pas un fanatique de précision comme ses compatriotes Rainer, Selle, Ormandie, mais il avait cette sorte de feu intérieur, y compris dans sa vie sentimentale, qui pouvait avoir des répercussions sur ses concerts, car il était capable, au dernier moment, de changer un programme d'ouverture de Wagner pour une quatrième de Mahler, car dans l'intervalle, il était tombé amoureux d'une soprano. Un jour, il dirige à l'Opéra de Paris, Rigoletto, qui est en trois actes. Entr'acte à la fin du deuxième, il met son manteau, et s'en va. Il a fallu le rattraper dans la rue pour lui dire « Mais maître, c'est l'entracte, il reste encore un tableau. Oh, pardon !» Mon cher ami Jean-Charles Feulet, qui a bien connu Georges Sébastian à la fin de sa vie, m'a dit « Il devait être amoureux. » Il faut vous dire aussi qu'il a souvent dirigé à la radio. Et puisque je suis en plein dans ma série sur les 90 ans de l'Orchestre National, vous rappelez qu'il a été un des premiers à initier nos orchestres à la musique de Mahler, qui était un quasi-inconnu après-guerre, en France. Cette musique germanique, post-romantique, c'était vraiment son cœur de répertoire. Et parmi les enregistrements à réhabiliter qu'on lui doit, figure, à mon sens, une des plus belles versions de La Nuit transfigurée de Schoenberg.
Thank you.
avec ce début très lyrique de la Nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg par le Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Georges Sébastien, prend fin ce trop rapide portrait du plus français des chefs hongrois, mort en 1989 à la Haute-Ville, dans les Yvelines, à côté de la forêt de Rambouillet. Un épisode réalisé par Marie Grou, mixé par Pierrick Charles et conçu en pensant très fort à Jean-Charles Ophelet et François Udry. Demain, un autre oublié, Maurice Abravanel. Très bon début de semaine à tous, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.